Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine et les prochaines élections ici aux États-Unis. Là, il y aura ce soir le premier État américain à voter dans les primaires du parti d'opposition démocrate. Les candidats en lice ont multiplié les meetings et interviews pour tenter de convaincre qui sont chacun le plus apte à battre le président sortant, le républicain Donald Trump, à la présidentielle de novembre. Les détails avec Idriss Fall.
Sur les 11 candidats dans la course à l'investiture démocrate, 4 ont été ces derniers mois à la tête des sondages. Le sénateur socialiste Bernie Sanders, suivi respectivement de l'ancien vice-président Joe Biden, du jeune ex-maire Peter Buttigieg et de la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. La sénatrice modérée Amy Klobuchar a récemment grimpé dans les intentions de vote. Chacun dit à la base démocrate qu'il est le meilleur candidat pour battre Donald Trump en novembre prochain. La campagne se joue sur le terrain, électeur par électeur. Des milliers de bénévoles ont fait du porte-à-porte, téléphoné et planté des pancartes dans la neige. Le vote ne se fera pas par bulletin, mais lors d'assemblées d'électeurs ce soir, dans environ 1700 salles où ils se regrouperont par candidat. Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar doivent rattraper le temps perdu car ils étaient au Congrès pour le procès de Donald Trump. Son acquittement se profile au Sénat lors du vote final à son procès mercredi, au lendemain de son discours traditionnel sur l'état de l'Union.
Relations États-Unis-Soudan maintenant. Le chef du Conseil souverain, l'instance assurant la transition au Soudan après la destitution du président Omar al-Béchir en avril 2019, invité pour une visite officielle à Washington. La première invitation d'un haut responsable soudanais par les États-Unis depuis plus de 30 ans. Le général Abdel Fattah al-Burhan a reçu cette invitation lors d'un entretien téléphonique dimanche avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le général Burhan a affirmé qu'il effectuera cette visite prochainement selon un communiqué du Conseil souverain qui n'a pas fourni plus de détails. En République centrafricaine, les casques bleus de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, disent avoir contraint un groupe armé à abandonner ses positions dans le centre-ville d'Alindao, localité du sud du pays. Selon Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA, les forces onusiennes auraient mis fin à toute circulation des éléments armés de ce groupe dans la ville. L'UPC, l'Unité pour la paix en Centrafrique, dirigée par Ali Darassa, est l'un des principaux groupes armés du pays. Ces éléments sont présents sur une grande partie du territoire, de Bambari au centre du pays jusqu'à la frontière avec le Soudan du Sud. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Burkina Faso, 18 civils ont été tués samedi dans une attaque djihadiste à Lamdamol, un village du nord du pays. C'est ce qu'a annoncé dimanche le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kabore, donnant le bilan officiel de l'incident. Cette attaque contre les populations civiles survient une semaine après plusieurs autres dans le nord et le centre du Burkina. Le 25 janvier, 39 civils ont été tués dans une attaque djihadiste perpétrée dans le village de Silgadji, localité située dans la commune de Tongomayel, dans la province du Soum. Selon l'ONU, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina ont fait 4000 morts en 2019 et provoqué une crise humanitaire sans précédent avec 600 000 déplacés réfugiés qui fuient les violences. Toujours concernant le combat anti-djihadiste au Sahel, au Nigeria, 3 militaires ont été tués vendredi soir lors d'une attaque des djihadistes affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP, contre la localité d'Askira dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'ont confirmé des sources sécuritaires ce lundi. Selon un officier qui a requis l'anonymat, les assaillants ont été repoussés avec de lourdes pertes. Mais les défenseurs d'Askira ont perdu 3 hommes et 2 camions et 5 habitants ont été blessés. Les djihadistes défaits ont ensuite attaqué le village voisin de Kilangar, pillant des médicaments dans une clinique, a précisé un membre d'une milice locale d'autodéfense. Pour sa part, l'État islamique en Afrique de l'Ouest a publié dimanche un communiqué affirmant qu'il avait tué 7 soldats et saisi 3 véhicules dans l'opération contre Askira.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Sénégal, des citoyens dénoncent de nouvelles pratiques en cours dans l'immobilier à Dakar, la capitale. De plus en plus de nationaux disent se heurter au refus de propriétaires de leur louer des logements, préférant les locataires étrangers. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Dans la capitale sénégalaise, la grogne monte de plus en plus chez les citoyens désirant louer des maisons, des appartements ou même des chambres. La faute à une discrimination au logement. Abdou, locataire aux HLM Paris, dans la banlieue dakaroise, témoigne.
Beaucoup de Sénégalais louent leur maison à des étrangers, particulièrement les Nigériens. Oui, on a beaucoup de difficultés par rapport à cela. Surtout avec les agences, on a beaucoup de problèmes par rapport à cela, parce qu'ils n'ont aucun pitié envers nous.
Pointé du doigt, les agences immobilières refusent de porter le chapeau. Pour eux, certains Sénégalais sont les seuls responsables de cette situation car ils causent souvent d'énormes problèmes aux bailleurs. L'agent immobilier Alpha Cissé explique.
Les locataires sénégalais, souvent pour payer, on les assigne en justice et la loi les protège tellement que les propriétaires en ont marre de courir derrière leur argent, mais aussi les faire sortir, c'est une longue procédure.
Ces propos sont confirmés par les bailleurs eux-mêmes et au-delà de l'aspect financier, les propriétaires de maisons se plaignent du comportement de certains locataires locaux qui ne respectent pas leur contrat tandis que les étrangers sont généralement irréprochables. Sédou Sidibé est propriétaire de plusieurs maisons dans la banlieue dakaroise.
Bon, Sénégalais, notre société.
Les Sénégalais sont difficiles à gérer. Ils perturbent et quand tu leur interdis quelque chose, ils refusent d'obtempérer. Même pour payer les factures, ils refusent alors que les étrangers obéissent aux normes de la maison et ils paient à temps leur loyer. Ils n'ont aucun problème avec qui que ce soit. Ils restent dans leur coin et font tout comme il se doit. Certains ont voulu que je mette les étrangers dehors, mais j'ai refusé parce qu'ils sont corrects et respectueux des règles.
Pris au milieu de cette polémique, les locataires étrangers préfèrent faire profil bas et mettre en avant la teranga sénégalaise. Anthony est un Nigérian établi au Sénégal depuis plusieurs mois et pour lui, c'est l'intégration africaine qui justifie leur présence.
Oh yes, Sénégalese people, they are very kindness, but sometimes...
Les Sénégalais sont vraiment gentils, même si des fois la langue parlée cause certaines difficultés puisqu'ils ne comprennent pas l'anglais. Mais je pense qu'ils sont gentils parce qu'ils essayent quand même de m'aider à m'intégrer facilement. Je me suis même fait des amis. Nous sommes tous pareils. On est tous de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous plaisons ici et on fait de petits business. Je pense aussi que les Sénégalais qui vivent au Nigeria sont dans les mêmes conditions.
I guess that some Sénégalais also have some investments in Nigeria.
Même s'ils se défendent de stigmatiser les étrangers vivant parmi eux, certains Sénégalais se plaignent du favoritisme à l'égard de ces derniers qui bénéficient plus facilement de logements. Pour les locaux, c'est une situation inacceptable et imputable aux agences immobilières. Ces dernières estiment quant à elles que les étrangers bénéficient d'un meilleur traitement car ils sont plus prompts à respecter leurs engagements. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Corne de l'Afrique, l'invasion de criquets dans la sous-région a été déclarée urgence nationale en Somalie. Ces insectes font des ravages sur les cultures dans l'une des régions les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. Jean-Roger Bion.
Le ministère somalien de l'Agriculture a déclaré une urgence nationale face à la recrudescence des criquets pèlerins qui sont une menace réelle pour la fragile sécurité alimentaire. Les sources de nourriture pour les personnes et leur bétail sont menacées, a ajouté le ministère. Les criquets pèlerins consomment d'énormes quantités de culture et de fourrage alors que les récoltes sont prévues en avril. Ces essaims de criquets, plusieurs milliards d'insectes, dévastent depuis plusieurs semaines de larges zones d'Afrique de l'Est, déjà frappées par une sécheresse et des inondations. Des épais nuages de criquets affamés se sont répandus depuis l'Éthiopie, la Somalie jusqu'au Kenya, où la FAO a estimé à la fin janvier qu'un seul de ces essaims couvrait une surface de 2400 km².
Le Rwanda et l'Ouganda voisins ont conclu hier dimanche à Luanda un accord pour échanger des prisonniers afin d'apaiser les tensions bilatérales à la suite d'accusations mutuelles d'espionnage et d'ingérence politique. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni se sont rencontrés en présence du président de l'Angola João Lourenço et du chef d'État de la RDC Félix Tshisekedi. Messieurs Kagame et Museveni se sont engagés à avancer vers la paix, la stabilité, le bon voisinage et le rétablissement de la confiance mutuelle. Et pour terminer, alerte au coronavirus dimanche, après l'annonce du premier décès hors de Chine lié au nouveau coronavirus, une mort survenue aux Philippines qui relance les inquiétudes sur la propagation de l'épidémie de pneumonie virale dans le monde. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.